Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Il était une fois en Cornouailles » sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouaille bretonne. Nous continuons cette semaine notre visite chez le petit peuple. Si les Korrigans composent la majorité des lutins de la Cornouaille bretonne, ils ne sont pas les seuls, comme vous allez pouvoir le découvrir. Ensuite, comme chaque semaine, je tenterai, dans une seconde partie, de relever le défi d'improviser une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a envoyés sur la page Facebook de notre association. Nous avons donc fait la connaissance la semaine dernière des plus célèbres lutins de Cornouailles, les Korrigans. Tellement célèbres d'ailleurs que leur nom a éclipsé tous les autres pour désigner les membres du petit peuple. Mais les Korrigans n'étaient pas les seuls à fouler la terre des hommes. Ainsi, tout comme eux, les poules piquants sont des lutins qui ont leur terrier dans des lieux froids et humides. À la différence des Korrigans, eux ne sont pas noirs de peau et ressemblent plus à des humains en modèle réduit. Ces poules piquants passaient pour être les maris des fées et les génies de la terre. On en trouvait partout où il y a des monuments druidiques. Ce sont eux qui faisaient entendre une clochette dans les bois pour tromper les petits pâtres qui cherchaient leurs chèvres égarées. Lorsque les jeunes filles revenaient trop tard du pardon ou des veillées, c'est aussi eux qui les saisissaient par le bras et embrassaient leurs coups potelés. Des coquins, ces poules piquants. Souvent, dans les soirs d'hiver, quand on se tient pensif auprès du foyer et que l'on écoute le feu grésiller, ils s'élèvent d'un coup au dehors des bruits aigus et criards. Les enfants et ceux qui ne connaissent pas les traditions disent « c'est la poulie du puits que le vent fait tourner » ou « c'est l'aile du moulin à vent d'un tel qui crie sur son axe » ou encore « le tourniquet de bois qui a été placé dans le grand pommier pour faire peur aux oiseaux ». Mais les vieux qui ont de l'expérience vous répondront, en secouant la tête, que ce sont les poules piquants qui s'appellent pour courir en rond autour des cromlechs du coteau. Alors, ceux qui sont sages ne sortiront pas. Ils diront dévotement une prière et ne se coucheront qu'après avoir placé devant leur lit un vase plein de grains. Car si les poules piquants viennent, ils répandront ces grains et, forcés par leur nature à les ramasser un à un, cette opération leur prendra la nuit entière et on sera tranquille. Sur les chemins de Cornouailles, les Dusiknos étaient, quant à eux, de petits lutins cornus avec des sabots de bouc et portant une bourse mystérieuse à leur côté. Si vous veniez à les rencontrer, ils vous posaient une énigme à résoudre. En cas de bonne réponse, ils vous donnaient une pièce en or qu'ils prenaient dans leur bourse, sinon ils se contentaient de disparaître. Attention toutefois à ne pas vouloir la prendre, cette bourse, comme l'explique le conte suivant paru en 1830 dans la Revue de Bretagne. Car vous saurez que les Dusiknos ont de petits sacs en toile, semblables à un des côtés de la besace, mais un peu plus longs. Ces sacs renferment des crins, des poils et une paire de ciseaux. Je ne sais ce qu'ils peuvent faire de ce petit bagage, mais ils ne le quittent jamais que pour se mettre en danse. Alors ils les déposent sur les grandes pierres ou les suspendent aux arbustes voisins. Dans un de ces endroits où ils dansaient tous les soirs, un ouvrier appelé Yannick de Trévézieu, petit homme malin, espiègle, ne craignant ni Dieu ni diable, résolut de leur jouer un tour. Ayant remarqué que ces tudigous, cette jante menue, s'éloignaient souvent de leur sac, emportés par la rapidité de leur danse volante, ils s'avancent un soir dans l'ombre, marchent sur la pointe des pieds, arrivent tout doucement au lieu du dépôt et en un clin d'œil, ils vous escamotent tous les sacs. Il revient ensuite joyeusement à la maison, ferme bien sa porte et visite avidement sa capture. Quel fut son étonnement à l'aspect de ses crins dégoûtants et sales. Il aurait bien voulu alors n'avoir pas obéi à sa folle curiosité, mais il était trop tard. Bientôt le danger est à sa porte. Des nuées de Dusiknos assiègent sa maison et demandent leurs sacs à grands cris. Voilà Yannick, plus mort que vif, qui essaye de passer les sacs par une ouverture pratiquée près du seuil. Tout à coup, quelque chose de dur et d'aigu comme une griffe de chat le saisit à la main et le déchire cruellement. Il quitte la porte avec effroi et douleur, puis, déterminé à tout attendre en repos, il s'enfonce dans son lit et s'asperge copieusement avec de l'eau renfermée dans un petit bénitier suspendu à son chevet et ombragé d'une branche de laurier consacrée le dernier dimanche des rameaux. Nouveau cri, nouveau trépignement au dehors. Plus de réponse, Jannick avait disparu sous sa couverture et dans l'épaisseur de sa large couette de balle. Les crieurs se lassèrent bientôt d'attendre. Un signal aigu et perçant qui passa dans les oreilles du malheureux comme un sifflement de mort. Voilà tous les diablotins sur le toit de chaume, tirant, arrachant la paille. Les dusiknos, en effet, ne peuvent passer ni par les portes ni par les fenêtres qui ont été consacrées lorsqu'une maison est nouvellement construite. Dispersant des pieds et des mains plus vivement qu'une armée de chats. La brèche est pratiquée. Ils descendent sur les poutres et de là se laissent tomber dans la place. Chaque mouvement, chaque cri, chaque saut était un coup d'aiguille qui allait au cœur de Jannick. Les sacs sont reconquis. Une danse joyeuse s'établit dans la maison. Sur la terre battue qui forme le plancher, les petits pieds des démons tombent et retombent lourdement en cadence comme les marteaux d'un moulin à foulon. De grands éclats de rire vont saluer l'infortuné Jannick. Un souffle diabolique lui rase le visage à travers sa couverture. C'est un bruit, un fracas épouvantable dans sa demeure. Mais grâce à son eau bénite, il en fut quitte à bon marché. Après quelques heures de danse et débats étourdissants, les dusiknos reprennent le large en sortant par la même issue. La nuit avait été bien cruelle pour ce pauvre Jannick de Trévézio. Du moins, il se croyait quitte pour toujours. Folie ! Les diables sont opiniâtres de leur naturel. Le lendemain, à la même heure, même scène et même divertissement. Le surlendemain encore, et désormais toutes les nuits, sans interruption. Il tardait bien à Jannick de se défaire de ses importuns visiteurs. Comme il était malin, il imagina une ruse. Un soir, après sa fournée, il étend sur le fond terrassé de sa maison la braise et la cendre ardente de son four. Voilà l'heure de la danse des dusiknos arrivée, et nos acharnés danseurs de retour. Une odeur de corne brûlée se fait aussitôt sentir, et des cris affreux de douleur et de vengeance partent de tous côtés. On saisit les seaux, la buire, les baquets, les pots au lait, tout ce qui renferme quelques liquides, et l'on étend tout sur le sol. Le feu ne résiste pas longtemps aux efforts de tous ces travailleurs. Il s'éteint sous des flots d'eau et de lait. Puis vient le moment de la vengeance, mais point contre Jannick personnellement. Heureusement qu'il avait eu soin de faire une ample provision d'eau bénite toute fraîche et qu'il s'en était dévotement signé depuis les pieds jusqu'à la tête. Il était donc contre ses ennemis comme un soldat couvert de fer. Mais adieu sa vaisselle. Tout ce qu'il y avait de fragile dans sa maison fut brisé, morcelé pièce à pièce. Et les diablotins, en lançant sur lui quelques fragments de vase et quelques éclaboussures, s'écriaient « Bienheureux pour toi, grand lâche, grand fainéant d'être là sous la défense de ton eau bénite. Sans cela, nous t'aurions fait danser une danse qui t'aurait usé les jambes jusqu'aux genoux. » C'est qu'il l'aurait fait tout comme il le disait, ces méchants diablotins. Mais n'ayant pas où exercer leur rage, ils se mettent à danser pour la dernière fois et en forme d'adieu. Une chanson de circonstance fut improvisée, et en voici le refrain tel que depuis Jannick de Trévézio l'a répété lui-même.
« Chez Jannick de Trévézio, nous avons brûlé nos pieds, mais brisé toute la vaisselle. »
La chanson et la danse finies, les voilà grimpés sur les poutres et tout prêts à partir. Mais avant de prendre définitivement congé du pauvre Jannick, ils lui firent mille agaceries diaboliques contre lesquelles l'eau bénite elle-même fut sans pouvoir et sans vertu. Voilà pour ce qui est des dusiknos. D'autres petites créatures étaient associées à un lieu particulier. Ainsi, la scuberesnose, ou balayeuse de la nuit, balait-elle nuit après nuit les marches du calvaire de Plougastel d'Aoulas. La gibilennose, elle, entretient les tombes du cimetière de l'île de Saint. Le teus Arpoliette, quant à lui, est un lutin farceur habillé de vert et portant de belles guêtres. On l'appelle aussi parfois Viltançon. Il est l'espiègle de la mare. Ses farces tournent autour de son apparence qu'il peut modifier à volonté. Son péché mignon est de se rendre invisible, mais il aime aussi éclabousser debout le linge des lavandières, de préférence une fois qu'il est propre, évidemment. Toutefois, là n'était pas son seul objectif, comme le montre le conte suivant. Un jour, une lavandière qui venait laver son linge au lavoir du village vit surgir un papiteux arpoliette d'un buisson et s'approcher d'elle. La jeune fille, qui était bien jolie, ne tarda pas à comprendre que le lutin en avait après sa vertu. Pourquoi autrement tenait-il absolument à découvrir les merveilles que son jupon cachait ? La jeune fille commença par lui dire qu'elle était fiancée et que s'il continuait de l'importuner, elle irait chercher son promis, qui était champion de Gouraine et le garçon le plus robuste des environs. Peine perdue. Le teux arpoliette se montra de plus en plus insistant et alla jusqu'à sauter contre sa jambe, où il commença à se frotter comme un chien. Outrée par la grossièreté du gnome, la jeune fille lui donna alors une série de coups de battoir pour refroidir ses ardeurs déplacées. Le petit papy cria de douleur, puis s'éloigna un peu en se tenant le dos et en se frottant la tête. Une fois hors d'atteinte, il se retourna vers elle.
« Voilà une volée bien sévère que tu n'emporteras pas au paradis, ma petite. Puisque tu m'as repoussée pour préférer ton fiancé, je m'en vais de ce pas le transformer en étalon, qui saura sans doute te satisfaire plus que moi. »
Et voilà notre teuse arpoliette disparue. La jeune lavandière ne le prit pas au sérieux, mais lorsqu'elle retourna chez elle, on lui raconta la métamorphose de son promis, qui était d'un seul coup devenu un cheval tout noir, et s'était enfui sans demander son reste. Elle pleura toutes les larmes de son corps, maudissant le teux arpoliette de tout son être, mais sans savoir quoi faire pour briser sa malédiction. Ses amis lui conseillèrent d'aller rendre visite aux prêtresses de l'île de Saint, dernière dépositaire de l'ancienne sagesse des druides. Nul doute qu'elle saurait quoi faire. La jeune fille s'embarqua, mais, alors qu'elle montait à bord du bateau qui devait l'emmener, elle vit le vieux teuse en surplomb de la mer qui agitait les bras dans tous les sens. Elle aurait bien voulu lui jeter des pierres, mais il était trop loin. Les nuages s'amoncelèrent et une tempête terrible se déchaîna. L'océan en furie lança des vagues de plusieurs mètres contre la proue du bateau où elle se trouvait. Cependant, le pilote était un gaillard courageux qui en avait vu d'autres. Ému par le récit de la lavandière, il avait eu à cœur de l'aider et de l'amener en bon port. Il parvint à l'île de Saint, et l'océan se calma d'un seul coup. La jeune fille se rendit aussitôt auprès des 9 prêtresses qui lui déclarèrent que pour lever la malédiction, il fallait faire tomber une étoile du ciel, la récupérer et l'amener pour la poser sur le front du fiancé cheval. Elle-même pouvait faire tomber l'étoile du ciel, mais ce serait à la jeune fille de la retrouver et de l'emmener à son fiancé. La lavandière accepta. La nuit suivante, les 9 prêtresses se réunirent en cercle, dansèrent, puis invoquèrent les anciens dieux jusqu'à ce que la plus vieille d'entre elles pointe brusquement son doigt vers le ciel étoilé. La jeune fille vit alors une étoile tomber sur la terre. Elle s'embarqua aussitôt en direction de la chute de l'étoile et ne tarda pas à arriver devant un dolmen qui venait d'être brisé et fumait encore. Elle fouilla parmi les décombres de pierre et trouva un splendide saphir brillant de 1000 feux comme les étoiles dans le ciel au-dessus d'elle. Le lendemain, elle se fit amener à la grotte où son fiancé cheval s'était réfugié. L'étalon, d'abord rétif, sembla la reconnaître et se laissa approcher. Elle le caressa pour le calmer, puis lui posa le saphir sur le front. L'animal se mit à briller, et quand la lueur disparut, son fiancé se trouva devant elle sous sa forme humaine. Voilà en ce qui concerne les teuses arpoliettes. Mais puisque nous sommes près des étendues d'eau, les lutins feux follets appelés l'éternose, lanterne de nuit, tannose, feu de nuit, ou quelerne, follet, faisaient perdre son chemin aux voyageurs et le conduisaient dans un étang ou un marais pour qu'il se noie. Aux environs du Cap Sizun, les coriques, eux, se promenaient le soir sur la lande et sur les dunes en prenant l'apparence de feux errants. Ils cherchaient à attirer les voyageurs imprudents hors des sentiers battus vers des marais où ils se noyaient, mais aussi les bateaux en mer vers des récifs. Pour conjurer ces petits êtres, un casse-prenne, cette petite fourche de bois pour nettoyer le soc de la charrue, était utile, ou un couteau dont la lame à moitié ouverte formait un angle aigu. Dans les forêts et les bois de Cornouailles se trouvent les cornicanèdes. Ce sont de petites créatures nommées ainsi, non pas à cause des petites cornes qu'elles ont sur le front, mais parce qu'elles portent en bandoulière un corps dans lequel elles soufflent pour guider le voyageur perdu et le remettre sur le bon chemin. Oh, elles ne le font pas par bonté d'âme, mais parce qu'elle n'aime pas trop voir les humains dans leur forêt et souhaite les en voir partir le plus vite possible. Au cœur de la forêt de Helgoat se trouve un immeuble à Cornicanède. Il s'agit d'un amas rocheux aux multiples anfractuosités le long de la rivière d'Argent, qui sert de repère à toute une tribu de ces petits lutins bretons. Rapprochons-nous maintenant des maisons des hommes et des petits êtres qui s'y cachent. Le Karspren peut être également utile contre les taurigans, pour les empêcher de venir accaparer les chevaux qui se trouvent à passer la nuit dans leur écurie. D'autres lutins en cornouaille étaient par contre spécialisés dans l'entretien des chevaux à ces mêmes écuries. On les appelait boudiques ou baume-nose dans le quimpérois. Ils passaient leur nuit à tresser les crinières. À l'intérieur des maisons se trouvaient les teuses qui aidaient la ménagère à tenir son foyer. Il n'était pas rare de trouver à son lever des travaux effectués sans que quiconque d'humain y soit pour quoi que ce soit. Pratique, n'est-ce pas ? Il fallait par contre, le soir suivant, remercier ce petit auxiliaire si précieux en laissant un petit quelque chose à manger près de la cheminée. Si par malheur on venait à oublier, le teuse se vengeait et mettait toute la maison sans dessus-dessous. On disait en Cornouaille que les teuses de sexe masculin avaient un chapeau plat, avec un velours qui leur tombait dans le dos. Les teuses de sexe féminin avaient, elles, un petit bonnet violet. Leurs vêtements étaient courts, inusables, de différentes couleurs, mais de toile grise pour les jours ordinaires. Ils étaient chaussés de sabots pointus. Pour aller aux noces, au baptême, au festin et aux assemblées qu'ils font, leur costume est bleu ciel. Certaines tribus se contentent cependant d'une simple feuille de chou qu'elles coupent et assemblent pour se faire des vêtements imitant ceux des humains à la mode de leur temps. Une ferme de Ploévin dans la plaine du Porzay était tentée par un petit homme rouge qui faisait 1000 tracas au couple de propriétaires. Il arrivait le soir et ne repartait que le matin venu, non sans avoir mis toute la maison sans dessus-dessous. Sans doute un teuse qu'on avait oublié de remercier un jour. Le mari, n'y tenant plus, alla demander conseil à son curé, qui lui dit de suivre le lutin le lendemain matin, puis de revenir lui dire où il logeait. Ainsi fut fait. Le mari découvrit que le petit homme rouge se jetait tous les matins dans un trou de glace. Il alla rendre compte au curé, qui lui révéla alors que ce petit homme rouge était sans doute un de ses ancêtres défunts, qui faisait ainsi pénitence sur terre. Pour en être délivré, il suffisait de lui faire une place dans le lit conjugal et de dormir à ses côtés 3 nuits consécutives. Son épouse refusa tout net, mais lui consentit, et après 3 nuits glaciales avec le petit homme rouge où il eut l'impression de dormir à côté de la mort elle-même, ils ne furent plus dérangés. On pouvait hélas aussi trouver des créatures moins sympathiques dans les maisons. Les kevnidnos par exemple, ou araignées de la nuit. Il s'agissait de teuses maléfiques, se transformant en grosses araignées poilues, pour se laisser tomber dans le berceau des enfants et les étouffer. Pour protéger les bébés de ce genre de créatures, la solution la plus efficace restait encore de mettre ce fameux Karspren dans le berceau. Mais quittons les maisons et rapprochons-nous maintenant de la mer et de l'île de Sein. Le long des côtes de l'île, on voit le soir des feux courir sur la lande et les dunes. Ne les appelez pas, car à peine le mot sorti de votre bouche, ils seraient sur le plat-bord, et malheur à vous. Il faudrait vous crocher avec eux. Ce sont des lutins qui cherchent toujours quelqu'un pour se battre. À Kelaourou, vers l'île, ce sont les bégounoses, feux qui voltigent et parlent. Ils répètent toujours les paroles qu'ils entendent. Dans l'océan, enfin, existent aussi de petites créatures, les morgans. À ne pas confondre avec les marimorgans, qui sont des fées de la mer. Les membres des morgans vivaient dans la mer ou dans des grottes. Ils avaient forme humaine, mais étaient d'une taille comparable à celle des corrigans, soit 1 pied de haut, ce qui veut dire environ 30 cm. François-Marie Luzel a recueilli le témoignage suivant de Marie Tual en 1873. Deux jeunes filles, cherchant un jour des coquillages au bord de la mer, aperçurent une morganesse, une femme morgan, qui séchait ses trésors au soleil, étalés sur 2 belles nappes toutes blanches. Les deux curieuses, se baissant et se glissant tout doucement derrière les rochers, arrivèrent jusqu'à elle sans être aperçues. La morganesse, surprise, et voyant que les deux jeunes filles étaient gentilles et paraissaient douces et sages, au lieu de se jeter à l'eau en emportant ses trésors, replia ses nappes sur toutes les belles choses qui étaient dessus et leur en donna une à chacune, en leur recommandant de ne pas regarder ce qu'il y avait dedans avant d'être rendus à leur maison, devant leurs parents. Voilà donc nos deux jeunes filles courant vers leur demeure, portant leur précieux baluchon sur l'épaule. Mais l'une d'elles, impatiente de contempler et de toucher de ses mains les diamants et les belles parures qu'elle croyait tenir pour de bon, ne put résister à la tentation. Elle déposa sa nappe sur le gazon quand elle fut à quelque distance de sa compagne, qui allait dans une autre direction, la déplia avec émotion, le cœur tout palpitant, et n'y trouva que du crottin de cheval. Elle en pleura de chagrin et de dépit. L'autre, par contre, alla jusqu'à sa maison tout d'une traite, et ce ne fut que sous les yeux de ses parents, dans leur pauvre chaumière, qu'elle ouvrit la nappe. Leurs yeux furent éblouis à la vue des trésors qu'elle contenait. Pierres précieuses, perles fines et or, de l'or. La famille devint riche tout d'un coup. Elle fit bâtir une belle maison, acheta des terres et ne perdit plus aucun de ses bateaux en mer. On prétend qu'il existe encore aujourd'hui parmi les descendants des restes du trésor de la Morganès. Voilà qui termine la première partie de notre émission. Nous allons faire une petite parenthèse musicale avec le titre « La jument de Michao » par les Trianes. Aucun rapport avec le thème d'aujourd'hui, j'avais juste envie de le réécouter.
J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Dans le pré, la jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michao, elle s'en repentira.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michao, elle s'en repentira.
Show.
Merci d'être resté avec nous. Il va s'agir maintenant pour moi de relever le défi de créer une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association. Aujourd'hui, c'est Joachim qui a été tiré au sort et Joachim nous a proposé comme élément un corrigan, un teuse, une blanche hermine, un menhir, un manoir et des crêpes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela, Joachim ? Il y a longtemps de cela, bon, pas si longtemps en fait, mais un peu quand même, vivait un corrigan qui s'appelait, mettons, Crassouille. On l'avait nommé ainsi parce que dès son plus jeune âge, son plus grand plaisir avait été de se baigner dans les flaques de boue. Cela lui avait d'ailleurs donné une belle peau. Maintenant, il ne le faisait plus, mais son nom était resté. Cela ne le dérangeait pas d'ailleurs, car chaque fois qu'on l'appelait ainsi, le corrigan se souvenait de ses baignades dans les flaques de boue avec la nostalgie heureuse que presque tous nous éprouvons lorsque nous évoquons l'enfance. Un matin d'hiver, qu'il s'ennuyait dans son terrier, il décida de rendre visite à Fripounet, son cousin, le teuse, qui habitait au manoir d'à côté. Il s'emmitoufla du mieux qu'il put et siffla pour appeler une monture. Les corrigans ne domestiquent pas les animaux, ils leur demandent juste poliment s'ils veulent bien leur rendre un service. Ce fut une jolie petite hermine toute blanche qui répondit à son appel et accepta de lui servir de monture jusqu'au manoir voisin du cousin. Ce dernier le reçut à bras ouverts. Ses humains étaient absents et ils auraient toute la nuit pour faire bonbon ses mieux connaissances tous les deux. Crassouille venant de la campagne, Fripounet avait décidé de lui en mettre plein la vue. La petite créature avait donc préparé un vrai festin de crêpes salées et sucrées, accompagné de cidre, de chouchène et de grand marnier. Le cidre passa bien. Le chouchène commença à embrumer les esprits, et le grand marnier, qui à l'origine devait être mis dans la pâte à crêpes, mais finalement non, acheva de brouiller les idées. Fripounet, grisé par l'alcool, se mit à prendre son cousin Crassouille de haut.
« Je suis bien plus utile que toi, caché sous ton menhir. Je m'occupe de garder impeccable le manoir, de la cheminée jusqu'au plafond, et ce, tous les jours de l'année. Je chasse même les corbeaux s'ils viennent à rentrer. Sans moi, les humains seraient bien embêtés. Ce n'est pas comme toi, tu ne sers à rien. Moi, je ne sers à rien. Enfin, je veux dire, moi, je ne sers à rien. Je garde les trésors enfouis. Je peux changer d'un coup la vie de n'importe quel humain que j'aurais choisi en lui révélant où il se trouve, lui procurant des richesses qui dépassent l'entendement. Certes, mais tu ne peux les aider qu'une fois alors que moi je les aide tous les jours. Tu as raison, mon cousin leteuse, mais l'humain que je rendrai riche pourra s'acheter un manoir dans lequel un teuse comme toi s'occupera de la propreté. »
La réplique fit mouche. Et Fripounet dut convenir qu'ils étaient aussi utiles l'un que l'autre, mais chacun à leur façon. Voilà, Joachim, une histoire assez courte au final, mais je crois que tous vos éléments ont été utilisés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles », 26 minutes en terre des fées rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo, Avéchal.